Bienvenue sur Follow the Bible Ministries. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques versets de la Bible, confiant qu'ils affermiront votre foi en Dieu et en sa sainte parole. Et maintenant, passons à notre étude.
Bienvenue à notre cours biblique. Nous poursuivons notre cours de l'Évangile selon Marc. Il s'agit de notre cinquième cours de cette série. La dernière fois, nous avons examiné comment le diable a tenté le Seigneur Jésus, essayant d'une manière ou d'une autre de le faire pécher. Pourtant, le Seigneur Jésus est resté fidèle, même après 40 jours de jeûne. Le Seigneur Jésus n'a pas obéi au diable qui tentait de le faire pécher. Un élément marquant que nous avons constaté, c'est que le Seigneur Jésus a réagi aux tentations du diable en citant la Bible. Et Jésus nous montre comment répondre aux questions et aux affirmations destinées à nous égarer. La façon de les gérer est de connaître et de citer la Bible. Plus nous consacrons des temps à la lire, mieux nous serons équipés pour faire face aux tentations et aux épreuves qui se présentent. Nous poursuivons notre lecture de Marc chapitre 1. Nous nous étions arrêtés au verset 14. Nous lisons. Après l'arrestation de Jean, Jésus se rendit en Galilée, prêcha l'évangile du royaume de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous lisons que Jean-Baptiste fut emprisonné. Nous apprenons dans un autre passage qu'il fut emprisonné par le roi d'Israël de l'époque Hérode. Jean-Baptiste avait réprimandé le roi Hérode pour son mariage inconvenant et ses autres péchés. En conséquent, le roi Hérode emprisonne Jean. Quelque temps plus tard, Jean fut tué. Mais Jean-Baptiste avait accompli les grandes tâches que Dieu lui avait conférées. Jean était le prédicateur au peuple qu'il devait se repentir et se tourner vers Dieu. De plus, Jean devait baptiser et annoncer la venue du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean accomplit les tâches que Dieu lui avait confiées. Ainsi, son œuvre fut achevée et Dieu permit qu'il soit emprisonné, puis mis à mort. Mais ce n'était pas une perte pour Jean. Car après sa mort dans ce monde, il est allé directement au ciel pour être avec Dieu. En réalité, Jean-Baptiste reconnaît que sa tâche consiste simplement à annoncer la venue du Sauveur et qu'une fois cela accompli, sa position dans le monde diminuerait. Dieu a guidé Jean à se voir comme l'ami du mari lors d'un mariage. Le mari, c'est le Seigneur Jésus, et Jean se voit comme l'ami des maris. C'est une manière humble et juste pour lui de se percevoir. Lisons ce que Jean-Baptiste a dit au peuple lorsqu'il lui posait des questions à son sujet. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 28. Jean parle, nous lisons. Vous-même m'êtes témoin que Jean dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui qui a l'époux et l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là est le temps et rempli de joie à cause de la voix de l'époux. C'est pourquoi ma joie est parfaite. Il faut que lui croise et que moi je diminue. C'est lui qui vient de haut est au-dessus de tout. C'est lui qui est de la terre, est terrestre et parle de la terre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tout. Tout d'abord, il convient de souligner l'humilité des gens. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Jean se voit également lui-même comme l'ami du mari. Lors des mariages, l'attention se porte sur les maris et la marie. Et Jean se considère comme un simple ami du mari dans une position humble et secondaire. Puis Jean fait une déclaration capitale, se comparant au Seigneur Jésus. Jean dit, « Il faut qu'il croise et que je diminue. » Cette déclaration s'applique à nous tous, une fois sauvés. Quand Dieu nous sauve, nous savons que le Seigneur Jésus grandit. Nous voulons que le Seigneur Jésus reçoive toute la gloire et l'honneur. Et nous voulons servir dans son royaume afin qu'il grandisse. De plus, nous diminuons, en ce sens que nous détournons notre attention de nos désirs, nous nous concentrons davantage sur les services du royaume de Dieu. Et cela est accompli directement pour Jean-Baptiste, ayant accompli les grandes tâches que Dieu lui avait confiées. Il fut bientôt emprisonné, puis mis à mort. Avec l'annonce du Seigneur Jésus et de son baptême, Dieu veut que l'attention se tourne vers lui, comme Jean l'a dit sous l'inspiration divine. Il faut qu'il croise. Revenons à Marc chapitre 1 et relisons les versets 14 et 15. Nous lisons. Après l'arrestation de Jean, Jésus s'est rendu en Galilée, prêcha l'évangile du royaume de Dieu. Et il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voici un résumé des nombreuses choses que Jésus a dit au début de son ministère terrestre. Jésus commence par des déclarations importantes. Il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. La venue du Seigneur Jésus a été un événement très important dans l'histoire de l'humanité pour de nombreuses raisons. Une principale raison a été que, depuis de meilleures années, Dieu promettait la venue d'un sauveur pour ôter les péchés. Tous les chemins depuis le commencement avec nos premiers parents, Adam et Ève, la promesse fut faite, un sauveur viendrait, vaincrait le diable et effacerait les péchés. Par exemple, dans un autre cours, nous avons examiné Adam et Ève et leur péché originel. Dieu a promis qu'une descendance de la femme viendrait et écraserait la tête du serpent ou du diable. Nous avons lu cela dans la Genèse chapitre 3. Parlez au diable, Dieu dit dans Genèse chapitre 3 et verset 15, « Je mettrai l'immunité entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Celle-ci te brisera la tête et tu lui briseras les talons. » Entre autres choses, ce verset promet qu'une venue la semence de la femme écraserait la tête du diable, ce qui est équivalent à tuer les diables. Ce qui a été promis, la semence de la femme, c'est le Seigneur Jésus. Ainsi, depuis le commencement de la création, Dieu a fait des déclarations promettant la venue d'un sauveur. Et lorsque Jésus est venu sur terre, il y a environ 2000 ans, ces promesses ont été accomplies. Et c'est pourquoi Jésus dit, le temps est accompli. Lorsqu'il est venu il y a 2000 ans, à ce moment-là, Dieu a accompli ses promesses faites depuis 1000 ans, depuis la création, selon lesquelles un sauveur viendrait pour ôter les péchés. C'est un moment capital. Il y a 2000 ans, lorsque le Seigneur Jésus est venu, car c'est alors que Dieu a accompli les nombreuses promesses faites pour des milliers de péchés. Et c'est pourquoi Jésus a commencé sa prédication par cette déclaration importante, le temps est accompli. Dieu parle de la plénitude des temps. Dans l'Épître aux Galilées, au chapitre 4, dès le verset 1, Dieu explique que sans le paiement des péchés par lesquels le Seigneur Jésus est venu, nous serions restés esclaves. Mais grâce au sacrifice du Seigneur Jésus, accompli en ces temps de plénitude, nous pouvons être libérés de cet esclavage. Nous lisons en commençant par Galates chapitre 4 et verset 1. Or, Jésus dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un serviteur, bien qu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous la tenue des tuteurs et des gouverneurs jusqu'à la date fixée par les pères. Même nous, enfants, étions asservis par les éléments du monde. Dieu utilise l'image de celui qui deviendra héritier pour représenter ceux qui sont sauvés avant les saluts. Nous sommes sous l'esclavage. Mais lorsque le salut survient, avec le paiement des péchés, nous sommes libérés de cet esclavage. Et le salut est possible, car le Seigneur Jésus est venu il y a environ 2000 ans et a payé pour ses péchés. C'est de ce dont il est parlé dans les versets suivants, les versets 4, nous lisons. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption des fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Dieu parle de la plénitude des temps, ce qui rejoint ce que Jésus dit « Le temps est accompli ». Jésus est venu en plénitude des temps, c'est-à-dire au moment parfait selon les plans de Dieu. C'était la plénitude des temps, car Dieu avait tout fait parfaitement à temps pour son plan de salut. Et au moment précis, il y a environ 2000 ans, Jésus est venu enfin pour payer pour les péchés. Ensuite, nous lisons ceci. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Dieu a envoyé son Fils, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et le mot Jésus était fait d'une femme. Et c'est alors qu'il est né de la Vierge Marie. C'était très important car c'est par ce moyen que Jésus revêtit une nature humaine, afin que tant qu'homme, il puisse porter les péchés des hommes. Et aussi, nous lisons que Jésus a été créé sous la loi. Autrement dit, le Seigneur Jésus a été soumis à la loi de Dieu. Nous sommes tous soumis à la loi de Dieu. Comme le dit le verset suivant, le Seigneur Jésus est venu pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption des fils, c'est-à-dire lorsqu'il a payé pour nos péchés, afin que nous soyons pardonnés et adoptés de nouveau dans la famille de Dieu comme fils ou fille à part entière. Où cela se produit à la plénitude des temps. Et c'est pourquoi Jésus a prêché que le temps est accompli. Revenons à Marc chapitre 1 et relisons les versets 15 à propos du Seigneur Jésus. Nous lisons. Et il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ensuite, nous lisons que le royaume de Dieu est proche. L'expression « est proche » c'est traduire généralement par « s'approche » ou « venir à proximité ». Cette expression signifie que le royaume de Dieu s'approche de nous. Et depuis la venue du Seigneur Jésus il y a environ 2000 ans, le royaume de Dieu est proche des peuples du monde entier. C'est pourquoi Jésus a donné ses commandements juste avant de retourner au ciel, en 33 après Jésus-Christ, afin de prêcher l'évangile à toutes les nations. Nous lisons cette instruction que Jean a donnée à ses disciples avant son ascension au ciel, dans l'évangile selon Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Nous lisons. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été confié dans les ciels et sur la terre. Allez donc faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » C'est pourquoi Jésus a commencé son ministère terrestre de 3 ans et demi en déclarant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Marc chapitre 1 verset 15. Le temps est accompli, le Sauveur est venu. Et maintenant le royaume de Dieu est proche de toute l'humanité, car l'évangile a répandu dans le monde entier. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, que le royaume de Dieu est proche. Jésus y envoie 70 disciples et leur ordonne d'annoncer l'évangile. Et tandis qu'il annonce l'évangile, le royaume de Dieu se rapproche de ceux qui attendent le message. Nous allons lire de l'évangile, chapitre 10, en commençant au verset 1. Après cela, le Seigneur désigna 70 autres hommes et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où ils devraient se rendre. Il leur dit donc, « La maison est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc les maîtres de la maison d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Partez, voici. » Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Et dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix sur cette maison. Et si le fils de la paix est là, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle retournera vers vous. Et demeure dans cette maison, en mangeant et buvant ce qu'on vous donne, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, où l'on vous accueillera, mangez ce qui vous sera servi. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu est proche de vous. Ceci explique comment les croyants en Jésus doivent transmettre le message de l'Évangile au peuple. À des reprises, l'on lit qu'ils doivent annoncer au peuple « Le royaume de Dieu est proche de vous ». Il est devenu proche d'eux car le message de l'Évangile leur a été annoncé. Voici ce dont Jésus parle dans Marc chapitre 1 verset 15. Maintenant que le Sauveur est venu au monde il y a environ 2000 ans, le plan de Dieu est que l'Évangile se répande dans le monde entier. Partout dans le monde, les gens attendront le message de l'Évangile. Et en ce sens, le royaume de Dieu est venu près d'eux. Revenons à Marc chapitre 1 verset 15 et parlons de ce que Jésus a dit ensuite. Nous lisons. Et il dit, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus résume brièvement les messages de l'Évangile. Il est ordonné à l'homme, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Pourquoi l'homme doit se repentir? Se repentir signifie se retourner du droit chemin. Or, selon la Bible, nous avons tous suivi notre propre voie, ce qui est contraire à la loi de Dieu. Dieu nous ordonne de revenir à lui, c'est-à-dire de nous repentir. La Bible dit à plusieurs reprises que nous avons suivi notre propre voie et nous sommes détournés de celle de Dieu. Par exemple, on lit dans Isaïe chapitre 53 verset 6. Nous étions tous errants comme des bretelles, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait reprocher sur lui l'inquiétude de nous tous. Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe que chacun suit sa propre voie. Ces versets d'Isaïe l'expriment avec douceur, nous comparant tous à des brebis égarées. Dans d'autres parties dans la Bible, Dieu utilise un langage plus ferme. Par exemple, on lit dans le Nouveau Testament, dans l'Épître des Romains au chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Cela signifie que nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Dieu place les messages dans un langage encore plus fort. Dans le même chapitre 3 de l'Épître aux Romains, à partir du verset 10, nous lisons « Comme il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprend, personne qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous sont devenus inutiles. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est un langage plus ferme. Cela peut nous apparaître dur, car Dieu est un Dieu très saint, et le péché est une grande offense vers un Dieu saint. Ainsi, nous comprenons pourquoi la repentance est nécessaire. Du point de vue de Dieu, nous avons tous transgressé sa loi, c'est-à-dire les péchés, et Dieu nous ordonne de revenir à lui, c'est-à-dire de nous repentir, de nous détourner du péché et d'obéir à la Bible. Et en ayant confiance en ce que dit la Bible, Dieu parle de repentance et de retour à lui à de nombreux endroits dans la Bible. Nous allons examiner une histoire racontée par le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 21. Jésus s'adresse aux chefs religieux d'Israël il y a 2000 ans. Ces hommes possédaient la Bible telle qu'elle était disponible à l'époque, l'Ancien Testament. Malheureusement, la Bible raconte comme des hommes paraissaient religieux et pieux, mais leur cœur était en rébellion contre Dieu. En effet, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, Jésus a dit ceci à propos des nombreux chefs religieux d'Israël de son époque. On lit dans Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis. À l'extérieur, ils paraissent beaux. À l'intérieur, ils sont remplis d'ossements de mort et de toute impiété. De même, vous aussi, vous paraissez juste aux yeux des hommes à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Les scribes et les pharisiens étaient les chefs religieux et les enseignants en Israël il y a 2000 ans. Et nous lisons les langages négatifs que le Seigneur Jésus a utilisé pour les décrire. Jésus les a comparés à un tombeau. Aux yeux des hommes, ils paraissent justes et saints. Mais au fond de leur cœur, Dieu dit qu'ils étaient pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Il est très important de les mentionner car nous devons nous examiner pour voir si ces versets nous concernent. Nous ne voulions pas ressembler à ce que Jésus appelait « sépulcres blanchis ». Nous paraissons bien aux yeux des hommes, mais au fond de notre cœur, il y a beaucoup de mauvaises pensées. Si nous constatons que tel est le cas pour nous, la solution est de prier Dieu, de lui demander miséricorde et de nous donner un cœur pur de tout péché. Nous ne pouvons pas changer notre cœur, mais Dieu peut nous donner un cœur pur. Alors, revenons à cette histoire que Jésus a racontée dans Matthieu chapitre 21 pour illustrer comment Dieu désire voir la repentance en nous. Jésus s'adresse à ce même chef religieux. Et il les reproche de ne pas être repentis et d'avoir refusé de se tourner vers Dieu. Alors que les prostituées et les publicains se sont repentis et se sont tournés vers Dieu. Ces publicains étaient des collecteurs d'impôts au service du gouvernement romain. et il était connu pour recevoir des impôts excessifs et opprimer les pauvres. Dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28, nous lisons cette histoire que Jésus a racontée à ses maîtres religieux hypocrites. « Mais qu'en pensez-vous, un homme avait deux fils ?» Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je n'irai pas. » Mais ensuite, il s'est repenti et y alla. Il alla trouver le second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « J'y vais, monsieur, et n'y alla pas. » Lequel de deux a fait la volonté de son père? Il lui répondirait, « Le premier. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous l'ai dit, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentir pour croire en lui. » Jésus a raconté cette histoire concernant des fils. Le premier d'abord refusait d'obéir à son père, mais s'est ensuite repenti. Celui-ci finalement fait la volonté de son père. Il représente les prostituées et les publicains qui avaient commencé leur vie dans les péchés. Mais lorsqu'ils ont entendu le prédicateur Jean-Baptiste, l'occurrence, ils ont cru en son message, se sont repentis et obéi à Dieu. Et Jésus dit à ses pécheurs, se présenteront devant les chefs religieux pour entrer dans le royaume des cieux. La repentance de ces prostituées et de ces publicains est caractéristique de ceux qui sont sauvés. Or, Jésus a comparé le chef religieux à un homme qui promet à son père d'obéir.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Le temps imparti à notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Nous continuerons cette étude la prochaine fois.
Nous vous remercions de votre écoute. Retrouvez-nous pour notre prochaine émission. Notre adresse est la suivante. Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Weimar, CA 95736, USA. Notre site web est followthebibleministries.com. Écrivez-nous par courriel à followthebibleministries@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.